Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait ?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel. La radio. La radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue à l'émission Cinérama du mercredi 27 avril. Bonjour Martin.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Et bonjour Marine.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Qui est une nouvelle voix, pour le coup, dans Cinérama, une nouvelle personnalité aussi à découvrir donc dans cette émission. Et donc tu nous rejoins aujourd'hui, mais malheureusement t'as pas trop de chance parce que t'es pas tombé sur le film que tu voulais chroniquer. Hein. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ?
Je vais vous parler du Chaperon Rouge de Catherine Hardwick.
Alors que tu voulais voir Tomboy. Voilà, donc ce sera peut-être pour la semaine prochaine.
Bah, tout à fait pareil, oui.
Et toi Martin ?
Alors moi je suis allé voir deux films, je suis allé voir Code Source, Source Code, film d'action, science-fiction américain de Duncan Jones, et je suis allé voir également Détective D et le mystère de la flamme fantôme, nouveau film de Tsuark, voilà, dont je vous parlerai un peu plus tard dans l'émission.
Et quant à moi, eh bien, j'ai vu un film qui sort aujourd'hui, Animal Kingdom, réalisé par David Michaud, qui n'est pas français, même s'il a toutes les caractéristiques d'un nom français. Non, c'est un Australien. Et donc, c'est son premier film, un film sur les gangsters, qui nous permettra de faire un petit quiz spécial film de gangsters. Et puis, on écoutera aussi une interview de José Alcala et de Catherine Froh, actrice du film Coup d'éclat, qui sort aussi aujourd'hui, un film qui a été tourné à 7. Et voilà, ben on passera 10 minutes avec ces deux personnes. Et puis on va commencer eh bien, avec L'étrangère. L'étrangère, un film de Féo Aladag. L'étrangère, c'est son premier long métrage. C'est une réalisatrice autrichienne, une femme qui est scénariste, journaliste, actrice et productrice. Elle a aussi un doctorat de quoi ? Alors ça, je ne sais pas, en fait, je n'ai pas trouvé l'info. Ce qui est sûr, c'est que son premier long métrage sera un drame. L'étrangère est l'histoire d'une femme vivant en Turquie, aux prises avec un mari violent et qui décide de retourner en Allemagne avec son fils, lui aussi terrifié par son père. Alors ce départ est avant tout une sage décision, mais pas si facile à prendre. Et sans doute parce qu'elle est née en Allemagne, elle a ce petit souffle de liberté qui lui court dans les veines. Elle pense que là où elle a été élevée auprès des siens, de sa famille, elle pourra reconstruire sa vie tranquillement, paisiblement, mais rien ne se passe comme prévu et elle doit faire face au rejet. Pour la communauté turque, les voisins, les amis et tous les autres qui partagent les valeurs traditionnelles, elle n'est ni plus ni moins qu'une femme qui a déshonoré son mari et sa famille. Umay, c'est le prénom de cette jeune femme, belle, douce, intelligente. Eh bien, Umay va devoir sans cesse trimballer son fils tout en essayant de se rabibocher avec les siens. Alors bien sûr, elle pourrait renoncer, redonner son fils à son mari, rester en Turquie, se soumettre. Mais non, Umay veut se battre jusqu'au bout pour faire entendre raison. Ce que pointe l'étrangère, c'est une culture où l'homme est dominant. Si ce n'est pas le père qui tape du poing sur la table, ce sera le fils aîné. Et on voit d'ailleurs à l'intérieur de ce film, deux scènes radicalement différentes, deux scènes de famille où dans un cas en Turquie, c'est le fils aîné qui tape du poing sur la table et le père ne moufte pas. Et en Allemagne, eh bien, il y a les deux finalement qui tapent du poing sur la table. La réalisatrice nous fait très très vite saisir cette dimension culturelle, mais loin d'accabler seulement les hommes, le film nous laisse entrevoir aussi les femmes, la mère qui voudrait mais ne peut pas, la sœur qui est jeune mais qui suit la tradition sans rechigner et même avec plaisir. Alors on voit les douleurs, les excès et les motivations de chacun des personnages. La mise en scène prend le temps de nous montrer ce qui se trame dans cette famille. Et quand on a l'impression que les choses pourraient s'arranger, il y a toujours un petit grain de sable qui empêche la réconciliation. Alors soit on est une famille de même sang, soit il y a quelque chose au-dessus de cette famille. La communauté reste prédominante. On l'aperçoit au détour de quelques scènes où Maï se mêle à tout le monde quand les autres ont tendance à rester entre eux. Et le film ne cherche pas à expliquer le repli, mais on le devine, il en va de l'Allemagne comme de la France. L'immigré n'a pas toujours l'impression d'être un citoyen comme un autre dans son pays. Le titre du film y fait référence sûrement, mais si dans le cas d'Umay cela va encore plus loin, puisque en Turquie elle est considérée comme une pute allemande, elle n'a de turc que le prénom et la langue, et en Allemagne, dans sa famille, en s'opposant à la tradition, eh bien elle s'exile, d'où sans doute le titre aussi l'étrangère. Alors en tant que spectateur, on se laisse facilement bercer par le scénario, qui ne nous épargne rien, après tout c'est un drame dans le genre tragique, où tous les coups sont permis, au sens propre comme au figuré. Alors il y a d'abord une tension, un moment de crise, un apaisement et à nouveau une crise qui donnera la mesure de l'histoire d'Umay qui appartient, il faut bien le dire, à la rubrique des faits divers. La réalisatrice ne se cache pas de s'être inspirée d'une histoire semblable à Umay qui s'est déroulée dans la communauté turque allemande. Alors comme dans la vie, faute de s'entendre, les personnages de l'étrangère courent petit à petit vers un dénouement tragique et on peut dire que les hommes courent plus vite que les femmes vers ça. La mise en scène s'appuie beaucoup sur la relation qu'Umay a avec son fiston qui lui ne comprend pas tout. Mais la réalisatrice ne délaisse pas les autres personnages. C'est une des forces du film, s'intéresser autant à la victime qu'au juge ou au bourreau. Il n'y a pas de pathos exagéré. La musique vient bien surligner quelques scènes, mais la musique de la salle 3 du cinéma Diagonale, je ne sais pas exactement si elle était conforme aux souhaits de la réalisatrice. Et si c'est le cas, donc la dissonance a ses limites, hein, parce que j'avoue que même la salle a un peu ri, parce que la musique était quelque peu ralentie parfois, réaccélérée, ralentissait. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit la musique originale.
Problème récurrent au Diagonale, le coup du pleurage dans la salle 3.
Ouais.
Voilà. Moi, j'ai vu Détective D en mono aussi, mais
d'accord,
bon, j'en parlerai tout à l'heure.
Et bien justement, à propos de musique.
Sumula.
Voilà un petit extrait de la bande originale de L'étrangère. Alors si j'ai passé ça, c'est aussi parce que c'est un des beaux moments du film où cette fameuse étrangère interprétée par Cybèle Kekilli, qui avait joué dans le Head-On aussi, qui avait remporté je ne sais quel prix, et qui vient, en fait c'est une actrice qui a commencé avec le porno, donc on peut se féliciter qu'elle se retrouve dans des films de Paris Trempe. Et donc c'est une des rares scènes en fait où on découvre la ville pendant la nuit, où on la sent absolument libre sur ce scooter avec en serrant dans les bras un jeune Allemand. Voilà, c'est L'étrangère et c'est projeté au Diagonale.
Alors que feriez-vous s'il ne vous restait que 8 minutes à vivre? Une question un peu difficile. Alors, faut-il tomber à genoux et prier de toutes ses forces le divin barbu pour qu'il nous pardonne nos péchés? Faut-il en profiter pour se prendre une dernière cuite, vite fait, bien fait? Ou faut-il simplement sortir dans la rue et regarder le ciel, les arbres et les petits osiers, en jouissant au maximum des quelques secondes de vie qu'il nous reste? Que feriez-vous s'il ne vous restait que 8 minutes à vivre?
On peut prendre 7 minutes pour répondre.
Voilà, alors, pour ma part, la question ne se pose même pas, puisque l'émission est programmée jusqu'à 13h30. Et en bon petit soldat, je resterai avec abnégation dans ce studio pour vous parler de 7e art jusqu'à la fin. Mais bon, de toute façon, la fin du monde n'est prévue que pour l'année prochaine. Ça nous laisse largement le temps de nous intéresser au nouveau film de Duncan Jones, Source Code, un blockbuster de science-fiction à 30 millions de dollars, sorti mercredi dernier dans les salles. Alors jusqu'à récemment, je n'avais jamais entendu parler de Zoé Bowie, rejeton de l'une des plus grandes stars du rock du XXe siècle, à savoir David Bowie. Et puis le petit Zoé est devenu grand, s'est rendu compte que pour sortir de l'ombre imposante de son père, il valait mieux laisser tomber son pseudo, et pour faire bonne mesure, ne pas se lancer dans une carrière de musicien, mais plutôt de cinéaste. Il commence donc par faire ses armes dans la publicité avant de réaliser en 2002 un court-métrage intitulé Whistle. Et puis il y a 2 ans, Duncan Zoé Jones réalise son premier long-métrage, Moon, un film de science-fiction indépendant qui se passe sur la Lune, comme son titre le laisse supposer, et qui raconte l'histoire d'un ingénieur chargé d'exploiter les gisements lunaires d'hélium-3, une ressource naturelle susceptible de mettre un terme à la crise énergétique terrestre. Alors isolé depuis 3 ans, à 380 000 km de chez lui, avec pour seule compagnie un ordinateur intelligent, et alors qu'il ne reste que quelques jours avant son retour sur le plancher des vaches, le mineur de l'espace se rend compte que quelque chose cloche dans sa mission, et qu'il n'est peut-être pas si seul que ça. Donc un bon petit film de SF qui lorgne vers le Solaris de Tarkovsky ou 2001 Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, dont le scénario intelligent est très bien servi par le comédien Sam Rockwell, qui est de tous les plans, puisqu'il n'y a quasiment qu'un personnage, c'est Sam Rockwell, et servi aussi par une direction artistique irréprochable qui utilise à bon escient le moindre centime de son budget. Alors malheureusement, Moon n'a pas été distribué en France et il a fallu attendre sa sortie en DVD pour pouvoir le découvrir. Alors pour son deuxième long métrage, Duncan Jones choisit de se frotter à nouveau à la science-fiction et porte à l'écran un scénario rédigé par Ben Ripley intitulé « Source Code ». Donc Colter Stevens est un soldat de l'armée américaine à qui l'on confie une mission très spéciale. Grâce à un programme informatique révolutionnaire, le code source du titre, il va pouvoir revivre les 8 dernières minutes de la vie d'un homme, passager d'un train qui a été la cible d'un attentat meurtrier quelques jours auparavant. Une fois projeté dans la peau de cet homme, il doit enquêter et découvrir l'identité du terroriste pour éviter qu'il ne frappe à nouveau, cette fois-ci avec une bombe sale en plein centre de Chicago, donc une bombe bien plus dangereuse. Le problème, c'est que toutes les 8 minutes, le train explose, provoquant la mort de tous les passagers et l'éjection de Colter Stevens du code source. Il doit donc revivre sans cesse ces 8 minutes et réussir à résoudre l'énigme dans le temps imparti. Bon, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, parce que ça, c'était le générique de Code Quantum, comme vous avez pu le reconnaître, et pas du tout la bande originale de Source Code, que j'avais prévu de vous passer. Mais bon, c'est pas grave, puisque pour ceux qui connaissent la série télé, vous devriez avoir reconnu dans le résumé que je vous ai donné tout à l'heure quelques éléments directement empruntés à la série créée par Donald Bellisario. Et au petit jeu des comparaisons, vous allez pouvoir vous amuser avec le scénario de Source Code, puisque c'est une joyeuse compilation de thématiques, séquences et rebondissements piochés à droite à gauche dans le cinéma et la littérature de SF, et mélangés vigoureusement pour donner quelque chose d'à peu près nouveau. Une grosse pincée d'Un jour sans fin, quelques rondelles de L'armée des 12 singes, une louche d'Ubique, 3 ou 4 cuillères à soupe de déjà-vu, et pour finir, une larme d'Inception. Mettez tout ça à mijoter dans une marmite avec une touche de suspense hitchcockien, le comédien de Donnie Darko et une participation de Scott Bakula, l'acteur principal de Code Quantum, et vous aurez une assez bonne idée de l'histoire et des enjeux de Source Code. Donc malgré son ambition affichée, le scénario de Ben Ripley ne révolutionne pas grand-chose et a tendance à s'empêtrer dans les nombreux embranchements thématiques explorés. En cela, Source Code s'adresse moins aux fans de SF que le précédent film de Jones, qui jouait très peu sur le spectaculaire et plus sur l'introspection et les digressions philosophiques. À la fois trop explicite et pas assez verrouillée, le prétexte scientifique qui est à la base de la fiction permet aux spectateurs différentes interprétations sans qu'aucune ne résiste vraiment à une analyse un peu approfondie. Monde parallèle, paradoxe temporel, télépathie, prédestination, difficile de faire le tri dans ce foisonnement d'hypothèses. Mais bon, en dépit de ces zones de flottement dans la narration, Source Code se regarde avec plaisir parce qu'il fonctionne à la façon d'un thriller et n'a pas besoin d'un concept de science-fiction vraiment solide, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est est-ce que le héros parviendra-t-il à sauver sa peau et celle de la jolie fille, même si cela semble a priori impossible, c'est finalement tout ce qui importe, et c'est également ça qui dicte le dénouement de l'histoire, qui ne devrait surprendre personne. Pourtant, il y avait de quoi tenter quelque chose d'un peu plus radical et de moins consensuel, simplement en orientant l'imaginaire du spectateur vers telle ou telle explication, et en supprimant les dernières minutes du métrage qui sombre pour le coup dans la happy end de pacotille typiquement hollywoodienne. Alors c'est bien dommage parce que le film regorge de bonnes idées, pas forcément originales comme on l'a vu, mais plutôt bien utilisées. Et en ne sacrifiant pas l'ambition de son scénario sur l'autel du mélo, Source Code aurait pu s'élever finalement au-dessus de son statut de pure commande. Reste que les acteurs sont tous très convaincants, Jack Gyllenhaal en tête, que la mise en scène de Duncan Jones s'avère une nouvelle fois inventive, surtout lorsqu'il s'agit de filmer une même séquence plusieurs fois, en modifiant discrètement le point de vue adopté, et qu'on ne s'ennuie pas une seconde devant les mésaventures de Colter Stevens. Donc voilà, vous passerez sans doute un bon moment pour peu que vous n'attendiez pas trop de ce blockbuster malin qui a quand même tendance à recycler sans scrupule des recettes de SF déjà utilisées de façon moins bordélique dans plusieurs films récents. Donc voilà, Duncan Jones, un réalisateur à suivre à mon avis qui, s'il continue dans cette voie, devrait rapidement nous proposer un vrai grand film de SF. Voilà un extrait de la bande originale de Source Code, cette fois je ne me suis pas trompé. Une musique aux accents très hitchcockiens.
Effectivement,
voilà, ça fait penser à Bernard Herrmann et au générique de Vertigo par exemple. Et le film voilà, fait quelques clins d'œil également à d'autres films du maître Alfred Hitchcock. Donc Source Code s'est projeté au Gaumont Multiplex, c'est là-bas que je l'ai vu, avec un bon son et une belle image. Et ça doit passer également en centre-ville, au Royal ou au Gaumont.
Voilà, mais pas de version...
pas de version originale. Titre,
voilà, ouais. Eh bien, maintenant, nous arrivons à l'interview de ce Cinérama, une interview exclusive, qui a été exclusive d'ailleurs, l'interview, qui a été donc récupérée par Simon, qu'on remercie. Il est allé au Diagonale voir José Alcala et Catherine Fro. Catherine Fro, l'actrice du film Coup d'éclat, un film bien plutôt un film policier, mais policier contemplatif, film très réaliste même, on pourrait dire plutôt quasi naturaliste, qui se déroule donc à 7. C'est l'histoire d'une femme qui recherche à tout prix un enfant, enfin une policière qui recherche à tout prix un enfant d'une femme qu'elle a contrôlée, puisque son métier c'est de contrôler les sans-papiers. Voilà, ça se passe à 7. Et bon, forcément, eh bien, elle va chercher ce fils à tout prix et contre toute attente. On écoute maintenant donc le réalisateur et son actrice.
Autant mon précédent film, Alex, qui était mon premier film, était le regard d'une femme sur la société, sur notre société. Cette société, c'est un drôle de mot, c'est un peu galvaudé, quoi. Mais voilà, sur notre monde là, qui nous entoure, vu de l'extérieur, de la marge, là, je voulais vraiment traiter ça de l'intérieur. Et avec une implication particulière d'un personnage. Donc voilà, et très vite, j'ai pensé à un personnage qui serait... presque l'envers de ce que j'avais l'habitude de voir à la télé, où on voit souvent des filles assez formatées, là, comme ça. Là, je voulais quelqu'un qui soit en dehors de ça, voilà.
Il est où le dossier ?
Mais ça va pas, non ? Tu te crois où, là ?
En fait, dans le film, vous avez remarqué les décors, José va en parler, mais les décors, il y a quand même une esthétique du bout du monde, quoi, de quelque chose, d'une désolation. Mais il y a quelque chose de beau là-dedans, c'est une esthétique. Et ce commissariat, il est au milieu de tout ça, au milieu des silos, au milieu de l'eau, au milieu de rien, les choses assez grises. Et il y a là-dedans une femme grise, elle aussi. Mais moi, ça ne me fait pas peur, cette notion. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a quelque chose de vivant là-dedans, c'est comment va-t-elle sortir du gris. C'est le sens du film. Et c'est le sens qui lui manque à sa propre vie, qu'elle va découvrir en croisant des gens qu'elle ne s'attendait pas à croiser. Bon, elle fait le sale boulot, hein, dans la police, elle le dit elle-même, je fais le sale boulot. Il faut bien que quelqu'un fasse le sale boulot. Elle s'occupe des reconduites à la frontière, donc l'ingratitude est quand même à son comble. Et voilà, et le trajet du film, c'est comment va-t-elle sortir de ça. Il faut savoir que ses parents étaient communistes, elle est devenue flic. Il y a un démarrage dans la vie de cette femme qui est troublant, qui est fait de contradictions. Donc il y a un truc qui doit changer.
Ton père appelait ça ton virus. Tu passais tes journées à faire des enquêtes. Cela dit, ce n'était pas un problème.
De quoi ?
Tu sois une flic ?
C'est un parti pris de votre part de sous-entendre un peu justement l'histoire de cette femme dont on voit la photo avec son enfant, mais on n'explique pas exactement ce qui s'est passé. Si c'est un... Il peut être parti, il peut être mort, enfin, on ne sait pas. Ça fait aussi partie de votre vision.
J'aime bien poser des questions. J'aime bien qu'il y ait des choses qui restent aussi en suspens. C'est-à-dire que, bon, qu'est-ce que je pourrais raconter de plus que ce qu'on va imaginer très simplement. Voilà, un enfant, il s'est passé quelque chose, en tout cas. Il y a sûrement eu quelque chose de très fort pour qu'elle rejette l'idée que sa mère ait pu garder une photo à ce moment-là. Donc ça a dû être quelque chose de très, très rude. On imagine sûrement la mort de cet enfant. Voilà, mais des choses très simples. Alors dès lors qu'on le suppose, ça prend une dimension dramatique, je trouve, de mon point de vue, plus importante, plus troublante surtout. Et si on répond à cette question, alors voilà, telle personne, on suppose qu'elle a été prostituée, paf, on apprend qu'elle l'a été, etc., etc. Si c'est chaque fois on répond aux questions, ça ne sert plus à rien. Donc j'aime bien tendre les choses, voilà, que les choses soient tendues parce que... le scénario n'a pas une trame dramatique extrêmement provoquant une pression, une tension extrême. Donc c'est aussi par des toutes petites choses comme ça, une accumulation de petites choses que nous avons réussi à créer des tensions. Voilà.
Est-ce que vous faisiez toute seule en pleine nuit ?
Je marchais.
Alors c'est quoi cette histoire d'enfant ?
Je vous en prie, madame, laissez-moi retourner là-bas. Je l'ai laissé tout seul. Il a 4 ans.
Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle a un enfant ? T'as pas de preuve ?
Je voudrais un peu de temps pour vérifier.
Partir à la recherche de cet enfant, c'est l'histoire d'une mère potentielle, ou une mère qui est passée à côté de son destin de mère, qui part à la recherche de cet enfant. Et bizarrement, sur sa route, elle croise vers la fin du film une autre mère potentielle, une mère en devenir. Et elle, c'est possible. Il est possible qu'elle le soit. Alors cette mère potentielle va aussi défendre... Elles vont faire une sorte d'alliance de fées et cette femme flic va tout mettre en œuvre pour que cette femme soit mère. Et voilà. Et donc elle va au moins à elle lui offrir ça. Et d'où la récompense un petit peu à... Ça, je ne devrais pas le dire. Il ne faut pas que je dise ça. Il n'y a pas de récompense, en fait, à la fin. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe à la fin ?
Il y a un espoir, quand même. Il y a petit espoir. Il y a quelque chose de soulagé chez elle. Non ? Il y a un truc, quelque chose d'un peu apaisé.
Apaisé.
Elle va probablement renaître de tout ça.
On ne saute pas d'un toit comme ça sans raison, surtout quand on a un enfant.
Elle n'avait pas d'enfant, Olga.
Et lui ?
Lui, c'est Ilan, c'est mon fils.
C'est les dérives qui nous chagrinaient. Les dérives, hein, des flics.
Une pute qui s'est suicidée, on va pas y passer 10 ans quand même.
Oui, t'as raison, ça en vaut pas la peine. Puis l'enfant, là non plus, faut rien faire.
Cet enfant qui est le fils d'une femme venant d'ailleurs, après on sait pas d'où et puis on s'en fiche un peu. Pour moi, il représente l'espoir porté par cette femme qui va, en le sauvant et en le mettant dans les bras d'une mère possible, un peu sauver le monde, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire si ça se passe comme ça, y compris dans cette désobéissance civile, parce que ça en est une, elle transgresse toutes ces règles auxquelles elle tenait tellement. Et voilà, et si ça se passe comme ça, ben pourquoi pas.
C'est la jeune fille qui s'est tuée au 19. Vous l'avez peut-être vue de votre fenêtre.
Non, je dormais.
Un enfant sans papier, ça va pas loin.
C'est votre travail, ça. Traquer les gens qui n'ont pas de papier pour les mettre dehors.
Du côté des reconduites, c'est glauque. Voilà, donc effectivement, les gens qui travaillent là-dedans, c'est glauque, oui, bien sûr. Il n'y a pas de raison de montrer autre chose. Et puis, je ne crois pas qu'on ait travaillé le glauque pour le glauque à un moment. Hein, c'était la présence de l'eau, déjà, donne une autre matière. Tout ce qui entoure le personnage principal de Fabienne Bourrier, tout ce qui l'entoure, on a essayé que ça soit dans cet esprit-là, dans un esprit de réalisme absolu. Et justement, moi, ce qui m'intéressait, c'était ce décalage-là, et que petit à petit, Catherine devienne Fabienne, et puis que cette Fabienne-là nous entraîne dans cet univers-là. Et pour moi, ça me semblait être très fort qu'on parte, effectivement, alors on reconnaît Catherine Fraud, très bien, et j'espère qu'après, on oublie Catherine Fraud pour complètement rentrer dans ma Fabienne Bourrier, quoi.
Ils sont venus y chercher Ilan.
Je veux retrouver ces types.
Viens vous là-bas, ça va pas, non? Dangereux ici.
Je voudrais vous parler.
Désolé de pas pouvoir vous aider.
Rien vu, rien entendu, chacun sa merde, c'est ça?
Ilan?
Faut pas que vous restiez au camping. J'ai peur qu'ils s'en prennent à l'enfant, il faut le protéger. Hein.
Vous lâchez mon fils, vous lui faites peur, merde!
Pour moi, c'est simple, hein. Sur mon petit ordinateur, j'ai un post-it avec les comédiens et les comédiennes que j'aime. Et puis voilà. Et c'est vrai que quand je suis allé voir Catherine Fraud, Catherine, tu as raison de dire ça, c'est amener ce sujet à un public plus large. Voilà, c'est ça aussi. Et du coup, cette idée de prendre un personnage identifiable, enfin une comédienne identifiable, incarnant un personnage particulier et nous entraînant, nous prenant par la main pour nous amener dans un univers particulier, moi je trouvais cette idée intéressante. Et voilà, et avec Catherine, toi tu as lu le scénario, et je crois qu'à ce moment-là tu avais un petit peu envie de faire aussi un film plus grave, non?
Oui, absolument, absolument. C'est même vital pour moi. Mais bon, ça c'est... Je suis toujours divisée, hein. La comédie m'attire, comme dans la vie, j'ai besoin de rire, j'ai besoin de trouver les choses absurdes, ridicules, drôles, poétiques, émouvantes, etc., de manière débridée. C'est mon caractère, ma truculence, dirait certains.
En fait,
c'est normal que ça soit amer.
Et pourquoi donc?
C'était pas du lait.
C'était quoi?
Du desktop. Alors en plus d'être méchant, t'es con.
Mais aussi, je voilà, il y a un autre versant qui me semble fondamental, c'est de voir l'âpreté de la vie, voir, je sais pas, quand je regarde les infos, je trouve que socialement, c'est quand même super rude, quoi. Donc à un moment donné, on puisse représenter aussi ça, comme certaines personnes en Angleterre le font régulièrement, que ce soit des Ken Loach, des Frears, maintenant il est plutôt un peu dans la comédie maintenant, mais enfin, à un moment donné, c'est s'affronter à la réalité, avoir, être pas loin d'un discours politique, de réfléchir au monde dans lequel on est, et de ne pas toujours divertir à fond et cacher tout en ne faisant que divertir. Mais bon... Là où je suis peut-être ambiguë, c'est que je me sens les deux. Et j'ai jamais pu me départir de ces deux notions, pour l'instant. Donc, c'est pour ça que j'avais fait l'empreinte de l'ange, qui n'a rien à voir, qui n'avait pas un caractère social, ni politique, etc., qui était vraiment un thriller psychologique, mais enfin, qui avait une rudesse aussi de récit, quand même notoire. Bon, puis les films de Luca Bellevaux, là, il y a aussi toute une histoire même politique, puisqu'il y avait le terrorisme et tout ça. Voilà, donc pour moi, coup d'éclat, c'est ça, quoi. C'est la vie, c'est l'histoire de Fabienne, et c'est la rencontre avec un univers, celui de José. Voilà, moi, j'ai besoin de tout ça, quoi, de cette nourriture-là, de cette intelligence-là aussi.
Écoute-moi pour une fois, tu vas finir par te foutre dans la merde.
Moi, j'avais envie, je ne sais pas si on y est complètement arrivé, ça. Après, c'est la réussite ou pas de tout ce qu'on a mis en place qui va répondre à la question, mais l'idée d'une sorte de vertige ou une sorte d'envie de tomber ou de peur de tomber. Voilà, moi, tout ça, c'est des petits... Encore une fois, ce sont des petits détails,
mais qui s'accumulent et qui peut-être, j'espère en tout cas, feront un tout qui racontera quelque chose de fort. Voilà. Mais à la fin, il n'y a pas de problème de vertige, il n'y a plus de problème de déséquilibre. Il y a une vision, elle regarde le monde et elle regarde le monde, c'est tout. Voilà, elle regarde le monde qui s'offre à elle. Là, j'ai dit la fin. C'est pas possible.
Vous lâchez jamais prise, vous, hein?
Coup d'éclat, qui sort donc aujourd'hui dans beaucoup de cinémas de la région, puisqu'il a été tourné à 7. Et bien forcément, les distributeurs attendent beaucoup et bien des spectateurs de la région. Voilà, je pense que tout a été dit par le réalisateur. Moi, je m'abstiendrai pour l'instant de faire une critique sur ce film que j'ai trouvé, quand même, si je peux le préciser, un poil lent et un peu trop réaliste avec les seules scènes d'action qui, me semble-t-il, sont pour le coup irréalistes. Voilà, enfin, c'était ça qui était peut-être le plus dommage. Voilà, on passe à tout autre chose. Animal Kingdom, réalisé par David Michaud, ou Michaud d'ailleurs peut-être. Grand prix du jury au festival 2010 de Sundance, rien que ça. Et donc voici qu'arrive de l'Australie une belle variation sur le thème de la famille de gangsters. On a tous été biberonnés par Scarface de De Palma, Mean Street ou Les Affranchis de Scorsese, ou allons-y, continuons de sortir l'artillerie lourde, Le Parrain de Coppola, ou plus près de nous, American Gangster de Ridley Scott. Dans bien des cas, le film de gangster cultive le manichéisme, on suit les gangsters, la police est bien là comme faire valoir. Les gangsters peuvent même devenir très sympathiques, comme le sont les policiers dans les films policiers, justement. Alors, ce qui est à l'œuvre dans Animal Kingdom est bien différent. Nous sommes à Melbourne, en Australie. La mère de Josh vient de faire une overdose sur son canapé. Son fiston attend patiemment les secours en regardant une émission à la télé, une émission quelconque. Josh se retrouve seul et n'a qu'un repli possible, la famille. Alors Josh est un introverti, un ado sans problème qui s'est toujours mis à l'écart de sa famille. Et sa famille, ses oncles sont tous des bandits, des criminels qui ne connaissent qu'une loi, celle du flingue. Alors on a beau être sans foi ni loi, il y a quand même des principes et la famille, c'est sacré. Au milieu d'une grand-mère qui va à coups de Montbichon pour assurer son monde de malfrats, Josh va naviguer dans cet univers, un univers qui est déstabilisé par la police qui aimerait coffrer une partie de la troupe pour arranger ses statistiques. Mais la police a des méthodes brutales, on n'a donc pas d'un côté des méchants et des gentils, ni de tous pourris, et c'est plutôt tant mieux. Alors parmi les gendarmes et les voleurs, il faut trier, mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit dans Animal Kingdom une lutte à tous les niveaux, police contre voleurs bien sûr, la famille des malfrats en vis-à-vis de la famille bien rangée de la copine de Josh notamment, le contraste est plutôt saisissant, et puis surtout une lutte à l'intérieur de la famille des malfrats, car quand il s'agit de prendre des décisions, eh bien il faut se mettre d'accord, et il se trouve qu'un des oncles terrorise son petit monde, un personnage inquiétant qui va être le moteur de la tragédie, le genre de type aveugle qui vous place le genou dans un engrenage et qui appuie sur la plaie sans qu'aucune émotion ne transparaisse sur son visage et qui pense à avoir toutes les raisons de vous faire hurler. Josh, l'ado de la troupe, est amoureux, ne se mêle pas des histoires de ses oncles, mais quand au détour d'un règlement de compte on lui demande un coup de main, eh bien la donne est changée, il va devoir choisir son camp, soit il se place du côté des policiers, dont certains, on le voit, sont corrompus, soit il se place du côté de sa famille, dont on voit bien qu'elle ne l'enchante pas sous toutes les coutures. Josh, dans son mutisme, a une morale sourde qu'on découvrira à mesure que le film va progresser. Alors la mise en scène est plutôt âpre, pas de grands effets, on voit un ralenti au moment clé du film. Le réalisateur David Michaud va à l'essentiel, s'autorise quelques scènes de violence sans détour, c'est-à-dire qu'on n'a pas 36 plans pour nous guider. Il y a du bavardage avec notamment le capitaine de police qui se transforme en guide moral, mais dans l'ensemble, Animal Kingdom respire le bon équilibre. C'est du bel ouvrage qui plie les codes du genre, la violence n'est pas seulement un spectacle, un divertissement. Au contraire, Animal Kingdom a trouvé l'équilibre entre le document sociologique, on pourrait dire, pour aller très loin, et le film de gangster. Et Animal Kingdom est donc projeté au cinéma Diagonale en version originale sous-titrée, et c'est un film que je vous recommande, ne serait-ce que pour son atmosphère plutôt glaciale, comparé à tout ce qu'on va écouter maintenant dans un blind test. Alors, roulement de tambour, on va écouter le premier extrait.
Je te parle de vrais amis. Je te parle de personnalité. Je te parle de... Merde, Léo, ça me gêne pas d'utiliser le mot. En fait, je te parle de morale. Tu sais que j'aime bien le sport. Je suis pas le dernier à lancer un petit pari. Mais il y a quand même des limites. Moi, quand je truque un combat, disons que je paie un favori à 3 contre 1 pour qu'il se couche à la deuxième reprise. Je crois avoir le droit de voir ce combat se terminer sur la cote de 3 contre 1. Mais chaque fois que je place mes paris auprès de ce fumier de Bernie Birnbaum, sans même que je le voie venir, la cote se met à grimper. Ou pire, je me retrouve gros gens comme devant. Comme il sait très bien que j'aime jouer sur du velours, il s'empresse d'aller dire à tout le monde que j'ai truqué le combat. Et d'un seul coup, le pognon arrive de tous les côtés et la cote se met à crever le plafond. Je sais pas à qui il revend le tuyau. Peut-être au consortium de Los Angeles, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que Bernie ne se contente pas de se faire son beurre dans l'affaire. Et il se contente pas de prendre le pognon que je lui apporte sur un plateau. Il rencarte ses petits copains sur ce que j'ai parié. Du coup, une bonne partie du pognon que je devais normalement me foutre dans la poche finit par atterrir dans la poche d'un autre. Voilà, c'est pour ça que j'ai posé toutes ces questions sur les vrais amis, les personnalités, sur la morale.
Eh oui, alors, un gangster qui nous parle de morale.
Moi, j'ai une petite idée.
Oui.
Je pense que c'est Miller's Crossing des frères Cohen.
Bravo.
Voilà,
bravo.
C'est le nom Bernie Birnbaum, voilà, qui c'est un personnage de Miller's Crossing. Très bon film de gangster.
Très, très bon film de gangster où là, justement, il est aussi question de choisir son camp. Et Gabriel Byrne, qui interprète justement quelqu'un qui est le bras droit de celui qui a la main mise sur la ville, doit au bout d'un moment régler des comptes. Et de toute façon, s'il se met dans un camp ou dans l'autre, il va y avoir un massacre dans les deux cas. Voilà. Et donc, il recule à ce moment de choisir. Et donc, il est question de morale avec ce personnage plutôt hilarant qui est John Polito. Voilà. C'est un film de 1990, Miller's Crossing des frères Cohen.
C'est à quel sujet, danseur ?
C'est très simple. Vous prenez la succession de police à vos gardes. Mais Pauline n'a jamais touché à ce qui appartient à M. Marello. Et vous n'y toucherez pas non plus.
Et alors ?
Je vous préviens. Si vous avez eu Pauline par surprise, moi je suis de naturel méfiant. Très méfiant. Un autre point très important. Rinaldi est mon ami. Si vous le touchez, c'est moi que vous touchez.
Pourquoi on le toucherait ?
D'ailleurs, Maître Rinaldi ne s'occupera plus de vos affaires.
J'aime pas beaucoup qu'on me parle sur ce ton, danseur.
Chauffeur.
Eh, c'est pas évident. Alors, j'aurais dû vous prévenir de faire attention aux voix, parce qu'il y a deux acteurs français. Alors, pour le coup, c'est un film français. C'est pas une VF.
Ah non, là, je sèche. Hein.
Et ce serait... Donc, il y a Delon et Jean-Paul Belmondo qui interviennent dans cette scène.
Alors...
J'étais meilleur sur le blend test drogue et défense, la chef gangster.
Alors, lundi, ce serait chapeau, si je vous dis chapeau. On va jouer.
Ah, Borsalino.
Voilà, Borsalino.
Que je n'ai toujours pas vu. Ouais.
Donc, un film réalisé par Jacques Doré en 1970, d'après Bandit à Marseille, écrit par Eugène Saccomano. Donc là, on est vraiment à Marseille, le marché aux poissons, enfin, il y a tout ça. Et c'est avec Delon, Belmondo qui jouent ensemble. Et puis, il y a aussi Michel Bouquet. Enfin, voilà, il y a plein d'acteurs dans ce film assez emblématique, des années 70.
Tu passes du temps avec ta famille ?
Bien sûr, parrain.
C'est bien. Parce qu'un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais un homme. Viens ici. La mauvaise mine. Là que tu manges. Là que tu te reposes. Et dans moins d'un mois, ce producteur d'Hollywood te prendra pour le rôle.
C'est trop tard. Ils vont tourner dans une semaine, alors.
Je vais lui faire une offre qu'il ne refusera pas.
Ah bon.
Je sais pas, Mafia Blues
Donc, voilà, c'est bien sûr donc, les Corleone. Enfin, voilà, le parrain. Alors, c'est le numéro 1. Enfin, on aurait pu piocher 1, 2, 3. Et donc, là, c'était pour le côté facile. Avec aussi, toujours ces petites règles. Hein, la famille, pour être un homme, tu dois manger. Enfin, il y a tout un tas de règles qui sont distillées. Et on passe à quelque chose de plutôt compliqué. L'indice, c'est plutôt la méthode d'un des parrain dont s'inspire le film, un grand parrain parisien dont s'inspire le film, qui utilise la perceuse.
Tu crois que je serais resté à Paris tranquillement ?
Je t'avais prévenu, Jean-Mi.
Je me suis fait baiser, Claude ! Il s'est foutu de ma gueule ! Il m'a pris pour un con !
Eh ouais, c'est con pour toi, petit !
Tu me connais. Tu sais qui je suis. Il n'y a pas plus réglo que moi. Hein, Claude? Non, Claude! Je t'en fous. Attends, Jackie, on peut le retrouver. Tu me donnes une semaine et je te le ramène vivant, si tu veux. On arrachera les tripes ensemble, hein, d'accord? Hein, Claude?
J'ai plus besoin de toi, Jean-Mi. Tu ne sers plus à rien, là. T'es fini.
Elle est là! Elle connaît pas, elle est là!
Chers auditeurs, vous n'avez pas l'image, c'est plutôt tant mieux. Voilà, donc l'homme à la perceuse. Alors, son truc, hein, c'est d'utiliser une perceuse et d'essayer de percer un trou à l'intérieur de l'articulation des genoux, hein, essentiellement. Bon, après, il lui crève les yeux. Il y a tout,
Oui, il passe un mauvais quart d'heure. Ouais,
voilà, il passe un mauvais quart d'heure. Alors, Martin, tu as trouvé. Hein.
Je pense qu'il s'agit de Truand, c'est ça, avec Philippe Cobert dans le rôle d'un parrain comme ça.
Le parrain, c'est inspiré de la vie de Claude Génova, hein, qui était réputé justement pour faire parler ou tout simplement tuer... tuer ceux qui les gênaient avec une perceuse.
Oui, c'est un film dans la veine des films de Marshall, d'Olivier Marshall. D'ailleurs, je crois qu'il a un petit rôle dans le film, si je ne me trompe pas.
Oui, effectivement, il est dans la distribution. Il y a aussi Benoît Magimel.
Voilà. Et Thomas Sisley.
Et oui.
Dans un petit rôle.
Donc, Truand, film de Frédéric Schoendorfer, qui était moins bon que son premier film, qui était vraiment, vraiment bluffant. Enfin, moi, j'aime bien ce réalisateur. Dernier extrait, mais là c'est vraiment très très facile, c'est plutôt même un amusement.
Can't you stop saying fuck all the time?
Marine se demande c'est quoi. Alors c'est un condensé, hein, voilà. Alors en plus j'ai condensé le condensé parce que il était question donc pour celui qui a fait ce montage de prendre le film et de prendre simplement tous les extraits où les personnages disaient fuck, voilà. Fuck, fuck you. Enfin, voilà. Donc. Mmh.
C'est Scarface,
c'est Scarface, absolument.
Qui a un record, je pense, dans le genre, avec 180 fuck ou voire plus.
Ouais. C'est jusqu'à l'overdose, hein, à la fin du montage, voilà. Ça c'est. Et donc, c'est peut-être le film le plus connu avec le parrain, hein, sur les films de gangsters, on peut le dire.
Oui, peut-être avec d'autres de Scorsese, genre les affranchis.
Il y a eu Casino, Mean Street. Mean Street, qui me semble être le plus intéressant de Scorsese.
Public Enemies, le dernier avec Johnny Depp.
Voilà.
Que j'ai pas vu.
Plus, il y a un film historique.
Quand même, à mon avis.
Et tu aurais pu aller taper aussi dans la cinématographie asiatique, parce que les Hongkongais, entre autres, sont assez forts dans le polar.
Tu vas pas me reprocher. Non, mais après, de toute façon, on pourra faire un autre blind test et tu en auras la charge la prochaine fois. Puisque les films de gangsters, mine de rien, il y en a assez régulièrement. Hein, voilà. Donc là, c'était à l'occasion de Animal Kingdom, la sortie aujourd'hui de ce film australien. Et Marine, il se trouve que je t'ai pris ta place. Hein. C'était toi, normalement, qui devais faire ta première chronique.
Très bien, donc je vais vous parler pour le coup d'un film pas du tout dans le même registre, mais complètement involontairement comique. Puisque je vais vous parler du Chaperon Rouge de Catherine Hardwicke. Donc l'histoire se passe dans un village perdu, au milieu d'une forêt inquiétante et de montagnes inhospitalières, où une jeune fille, Valérie, s'éveille à la vie et à ses tentations. Elle hésite entre deux garçons qui la courtisent, le premier semblant surgir d'une pub Hugo Boss et le second d'une boîte de nuit parisienne, sachant qu'ils sont supposés être forgerons et bûcherons. Les prétendants donc sont interprétés par Chilo Fernandez et Max Irons, qui n'ont pas fait grand-chose avant et qui ne font probablement pas grand-chose après. Et c'est la comédienne Amanda Seyfried, que l'on a déjà remarquée dans Mamma Mia ou Jennifer's Body, qui joue Valérie, devenant par la suite le Chaperon Rouge. En parallèle de ses intrigues amoureuses, un loup-garou, qui terrorise les villageois à chaque pleine lune, revient faire de nouvelles victimes après quelques années d'absence et un prêtre, Gary Oldman, aux méthodes peu orthodoxes, arrive au village afin de capturer la créature, semant ainsi le trouble parmi les habitants qui cherchent à découvrir lequel d'entre eux est le loup-garou. Si le triangle amoureux adolescent et les histoires de monstres vous rappellent quelque chose, c'est normal, puisque la réalisatrice du Chaperon Rouge n'est autre que celle du premier volet de la saga Twilight, Fascination. Néanmoins, on connaît tout de même cette réalisatrice pour quelques bons films, à savoir 13 et Les Seigneurs de Darktown, eux aussi construits autour de personnages jeunes et en quête d'identité et de découverte. La voici donc qui revient avec cette adaptation du conte de Perrault et son style inimitable qui consiste à prôner l'abstinence sexuelle en se servant de scénarios douteux et d'effets de caméra bas de gamme, à savoir ralenti, plongée et accélération, totalement dépourvus d'intérêt et d'utilité. Sans doute après avoir lu Psychanalyse des contes de fées, elle a choisi de privilégier dans Le Petit Chaperon Rouge les thèmes du désir charnel et de la perte de l'innocence, au détriment des galettes et du petit pot de beurre. Mais l'adapter à la sauce teenager sexy tout en faisant ressortir la noirceur originelle du mythe était certainement trop incompatible pour une réalisatrice aussi consensuelle, car l'imagination déployée à mettre les images sur cette histoire de notre enfance n'est guère suffisante. Le nombre de scènes inventives ne se compte même pas sur les doigts d'une main, mais plutôt sur un seul doigt. La créativité est au point mort et peu d'idées de mise en scène transparaissent. Ainsi, la métaphore filée de la défloration, par exemple, est utilisée de manière lourde et redondante, ce qui donne lieu à de multiples plans de lunes rouges et de gouttes de sang dans la neige. Et cela n'empêche pas l'ensemble de sentir davantage la guimauve que le soufre. Pourtant, le propos du film aurait pu être plus subversif et plus intéressant s'il avait justement privilégié la tension sexuelle et non le romantisme nié, car très convenu du début à la fin, et parfois très con, tout court, le film nous fait subir d'interminables scènes spécialement imaginées pour le public adolescent féminin. Entre les images d'étreintes dans le foin à la lumière du feu et celles de l'héroïne et de son amant courant au ralenti dans la neige sur fond de pop californienne, on obtient là un bel éventail de tous les clichés du genre. Un peu trop inspiré sans doute par l'équipe des années 80 et trop empressé de rentrer dans le moule commercial, Hardwick nous assomme de mièvrerie au lieu de bousculer les codes du conte. De la même manière, les autres thèmes intéressants ne sont jamais vraiment exploités. Par exemple, la vie en communauté, avec une population totalement coupée du monde, avait été le sujet de manière bien plus réussie du film Le Village de Night Shyamalan. Ou encore, le personnage du loup-garou, qui devrait provoquer quelques moments d'angoisse, ne parvient pas une seconde à créer du suspense, tant sa présence est mal exploitée. Et ses apparitions frôlent le ridicule, car il est représenté sous la forme d'une vulgaire peluche en mauvaise image de synthèse. Même l'ambition esthétique du film, qui se voudrait être à la frontière du gothique, de l'étrange, du merveilleux, est bien trop lourde à porter pour la réalisatrice, qui se réfugie dans la facilité. Seule l'actrice principale, Amanda Seyfried, correspond un tant soit peu à cet esprit, avec un physique à la fois atypique et angélique, à mi-chemin entre la princesse et la grenouille. Pour le reste, le parti pris de mêler modernité et Moyen-Âge ne fonctionne pas, puisqu'il n'est pas assumé jusqu'au bout et ne se ressent que dans certaines scènes, comme lors de la fête païenne du village qui n'est que prétexte à placer quelques anachronismes sans subtilité. Les décors, les costumes et les acteurs sont trop propres, trop lisses, pour avoir une âme, tout semble artificiel, depuis la fausse neige jusqu'aux implants mammaires des figurantes. Acteurs insipides, actrices décolorées, rien ne nous est épargné dans cette version Disneyland du Chaperon Rouge. Même la mère Grand, interprétée par Julie Christie, prend l'apparence d'une mamie botoxée qui prépare des soupes biologiques avant de passer elle-même à la casserole dans la dernière scène. Quant à Gary Oldman, il joue le registre qui lui est le plus facile, à savoir le demi-psychopathe imprévisible et charismatique, mais tout en étant trop occupé à se caricaturer lui-même pour donner de l'intérêt à l'ensemble. Et la production a même poussé l'américanisation du conte jusqu'à respecter les quotas ethniques, chers à Hollywood, plaçant parmi les acteurs un Afro-Américain, un Asiatique et un Portoricain, ce qui est assez osé dans un contexte médiéval. Néanmoins, on devine une volonté de subversion vers la fin du film, mais le dénouement oedipien qui suinte la psychanalyse bon marché ne s'avère que peu surprenant et peu audacieux. Car à trop vouloir édulcorer, Catherine Hardwick finit par réaliser un film très light, garanti sans matière grise. En définitive, un chaperon davantage rose que rouge, dans un film que l'on aurait souhaité plus sanglant, plus sensuel et surtout moins sirupeux.
Et pour vous donner encore envie de ne pas y aller, on a la bande-annonce.
Le loup. Il a encore tué.
Nous sommes tous en danger. Pars avec moi.
Le jour, le loup-garou reprend sa forme humaine.
Le véritable assassin vit ici, dans ce village.
Il est ici.
Je n'ai jamais vu une bête aussi puissante.
Si tu l'aimes, tu la laisseras partir. Nous avons tous des secrets.
Où vas-tu?
Chez Mère Grand. Il vient me chercher. Ne m'approche pas.
Tu crois que je suis le loup?
Tu ne devrais pas être ici.
Tu as peur?
Dis-moi qui c'est.
Le loup-garou est toujours en vie! Nul ne partira avant d'avoir tué le loup!
Le loup est quelqu'un du village, il est parmi vous. Donnez-lui ce qu'il veut.
Cela ne saurait tarder. Tu vas avoir ce que tu mérites. Que vous avez de grands yeux.
Alors, est-ce que vous avez peur à l'écoute de cette bande-annonce?
Voilà, donc si vous avez aimé la bande-annonce, vous aimerez sans doute le film, mais je dois dire pour ma défense que je ne l'avais pas vu avant.
Non, tu nous as bien vendu du rêve là, sur le nouveau film de Catherine.
Non, si vous avez une copine de moins de 13 ans, ça lui plaira beaucoup.
Non, c'est une indication. Mais sinon, 13, c'était bien l'histoire de cette fille qui avait un vagin qui mordait, non?
Non, ça c'est Tite.
Ah, Tite, oui. On passe à autre chose.
Non, 13, c'est...
Okay. Non, mais sur le même sujet, pour en finir avec le chaperon rouge, il y avait un film de Neil Jordan qui revisitait aussi le mythe du chaperon rouge, La Compagnie des loups, qui est sorti il y a un bon moment, je ne sais pas la date, et qui utilisait aussi le côté très psychanalytique du conte. Voilà, et le film était assez bien foutu. Voilà, La Compagnie des loups.
Contrairement à celui-ci.
Voilà, ça vaudrait peut-être plus le coup de le trouver en DVD dans un vidéoclub que d'aller voir. Le chaperon rouge. Alors, quelques mots sur Détective D et le mystère de la flamme fantôme, nouveau film de Tsui Hark dont on n'a pas trop entendu parler depuis Seven Swords, sorti il y a maintenant plus de 5 ans. Entre-temps, le metteur en scène a co-signé avec ses compatriotes hongkongais Ringo Lam et Johnny To le film Triangle, dont il n'a réalisé que les 30 premières minutes, ce qui ne laisse pas beaucoup de temps pour développer un univers personnel et imposer sa marque. Il a également tourné une comédie dramatique et un thriller qui n'ont pas eu l'honneur d'être distribués dans les salles françaises. Et aujourd'hui, pour le plus grand bonheur des fans, dont je ne fais pas forcément partie, Tsui Hark nous est finalement revenu la semaine dernière avec ce qu'il sait faire le mieux, un wuxiapian, ou film de cap et d'épée à la chinoise, un genre dont il a d'ailleurs contribué à repousser les limites au début de sa carrière avec des titres comme The Butterfly Murders ou Zou, les guerriers de la montagne magique. Alors, Détective 10, c'est le grand retour de Tsui Hark au film historique en costume. Nous sommes en 690 et l'Empire voit pour la première fois une femme accéder au trône après la mort de son empereur de mari. Suspectée d'avoir empoisonné son époux et parce qu'elle incarne le progrès dans une société très patriarcale, la belle Wu Zetian est entourée d'ennemis. Et alors que la cérémonie de couronnement approche, une nouvelle menace vient perturber les préparatifs. À quelques heures d'écart, deux hommes qui travaillaient à la construction d'une immense statue de Bouddha de 600 mètres de haut sont victimes de combustion spontanée. Donc pour résoudre le mystère qui entoure leur mort, la future impératrice fait appel au juge Di, un homme qu'elle a fait exiler quelques années plus tôt à cause de son insolence, mais dont les capacités de déduction et de raisonnement sont sans pareil. On sort alors le juge Di de sa prison afin qu'il mène l'enquête. Et au final, Détective 10 est donc une sorte de Sherlock Holmes au pays de Tigre et Dragon. L'intrigue policière se développe entre deux scènes de baston chorégraphiées au millimètre. Et si notre juge dit est un fin limier quand il s'agit de débrouiller une énigme criminelle, il ne donne pas non plus sa part quand il s'agit de botter le cul des méchants envoyés pour le tuer. Alors si ce mélange entre enquête policière et film d'arts martiaux apporte une certaine fraîcheur et une bonne dose d'originalité à l'histoire, si les maquillages, les costumes et les décors en dur sont très réussis, le nouveau film de Tuark accumule quand même un bon nombre de défauts. La première chose qui frappe et choque l'œil, c'est la qualité des effets spéciaux numériques. Alors c'est sûr que Detective D a été conçu avec environ 13 millions de dollars, soit le budget consacré aux donuts et à la bière sur Avatar, mais qui dit petit moyen dit solution alternative, et en sacrifiant quelques plans d'ensemble ou en favorisant le hors-champ, des éléments essentiels au récit auraient pu être traités avec un peu plus d'attention. Le film est donc tartiné de vilaines images de synthèse qui ridiculisent en quelques secondes le caractère épique de l'histoire et les qualités du reste de la direction artistique. Pourquoi ne pas avoir privilégié le dressage d'animaux à l'emploi systématique de biches numériques sorties tout droit d'un nanar de fantasy ? Pourquoi ne pas avoir utilisé des maquettes ou des incrustations plutôt que ces paysages virtuels à peine dignes de figurer dans un jeu vidéo ? Pourquoi ne pas avoir vraiment fait cramer les comédiens plutôt... Non. Bref, à de rares exceptions près, les scènes spectaculaires qui ne sont pas des combats sont en général assez moches. Et les effets numériques ne sont pas les seuls à pâtir de ce manque de budget. Certaines images détonnent aussi par leur aspect granuleux et terne. Pour donner une impression de rapidité, certains déplacements sont montés en accéléré et on a parfois l'impression que des plans de coupe ont été tournés après coup sans tenir compte de la cohérence de la lumière. La narration aussi laisse un peu à désirer et Tuark ne nous épargne pas quelques faux raccords surprenants, comme dans la scène du marché fantôme où un personnage censé être sous terre se retrouve brusquement parachuté au-dessus d'une forêt. Les rebondissements s'enchaînent sans grande surprise ni grand suspense et la révélation des différents mystères traîne un peu en longueur. Le film aurait sans doute mérité d'être un tantinet plus court pour être plus efficace. Sans parler de la complexité vaguement inutile du stratagème final choisi pour assassiner l'impératrice. Je vous laisse découvrir quel est ce stratagème. Finalement, un certain nombre de concessions sont demandées aux spectateurs et la contrepartie n'est pas toujours à la hauteur de nos attentes. Malgré tout, les scènes de combat nous en mettent plein la vue, le savoir-faire du chorégraphe est indéniable, l'humour est bien dosé et les comédiens sont parfaitement investis. Certaines séquences prouvent que Tuark reste un maître quand il s'agit d'utiliser l'espace et de bien composer ses plans pour magnifier une confrontation entre deux personnages. Mais ne vous attendez pas à un spectacle classique et ultra léché. Nous ne sommes pas devant Hero ou devant les Trois Royaumes. Et le nouveau film de Tuark s'apparente plus à un vieux serial d'aventure aux effets spéciaux approximatifs qu'à la grande fresque épique et friquée vantée par la bande-annonce. Donc pour conclure sur le côté Sherlock Holmes de Detective D, c'est plutôt à la version par Guy Ritchie des aventures du célèbre limier que ce film fait penser, le budget en moins. Une version orientée action avec un héros bagarreur et qui sait manier le bâton. La pointe de folie de Tuark dans une scène de canardage ou de transformation faisant écho à celle du réalisateur de Snatch et à son style un petit peu cartoon. Voilà donc Detective D et le mystère de la flamme fantôme, vous pouvez aller le voir en version originale sous-titré au diagonale et ailleurs en version française.
Merci beaucoup Martin, on va faire vite pour la fin de cette émission en parlant des événements, notamment le 28 avril, le cinéma Diagonale propose à 16h la projection du film de la série 12 et Janice Cinemenema, Le tigre et les animaux de la forêt, c'est ça qui est important finalement, c'est le titre. Et donc c'est pour les enfants, hein. C'est une séance suivie d'une animation avec les marionnettes originales des personnages. Le 30 avril, le cinéma Nestor Burmas, toujours pour les enfants, propose à 14h un ciné goûté autour de la projection du film fameux de Charlie Chaplin, Le Cirque, à Frontignan. Le même jour, le 30, le cinéma Ciné Mistral propose à 20h30 une discussion avec un graffeur autour de la projection du film excellent de Banksy, Faites le mur. Et puis lundi 2 mai à 19h50, c'est une avant-première au Diagonale avec Media Neras, réalisé par Gustavo Tareto. C'est dans le cadre des rencontres du cinéma sud-américain, c'est ça ? Merci. Passe à l'Utopia, All That I Love, Arietti, Le Petit Monde des Chapardeurs, Avant l'Aube, Gazland, Les Femmes du Sixième Étage, Ma Part du Gâteau, il n'y a rien de nouveau, mais en revanche Manhunt de Fritz Lang qui ressort. À l'Utopia, Nous Princesse de Clèves, Quelques Jours de Répit, Si Tu Meurs Je Te Tue et True Grit, puis We Want Sex Equality. Ainsi s'achève Cinérama.
Alors une petite annonce avant d'en terminer, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a le tournage d'une web-série qui s'organise sur Montpellier à l'université Paul Valéry et un casting a été lancé à la recherche d'acteurs et de figurants. Vous pouvez envoyer vos CV, vos books ou vos vidéos perso à casting.facbook@gmail.com, donc casting.facbook@gmail.com. pour devenir une star d'une web série. A noter que juste après la fin du générique, ça enchaîne sur 24 notes secondes, émission consacrée à la musique de film. Cette semaine, c'est consacré au film de train. Alors, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait un blind test spécial film de train, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le blog Cinérama, puisque j'ai mis en ligne les blogs. Si vous avez raté les blind tests, si vous avez raté quelques petits jeux de l'émission, vous pouvez jouer sur Internet.
À noter aussi qu'il ne sera pas présent 24 notes secondes pour la rediffusion puisque nous sommes diffusés à 19h15 ce soir très exceptionnellement en raison d'une émission en direct du Printival, voilà, opérée par Radio Pays d'Hérault. Marine, ça s'est bien passé ?
Oui.
Parfait, tu reviens pas la semaine prochaine parce que personne ne revient en fait, ça il faut
la
le dire
la semaine
aussi.
Prochaine relâche.
Personne ne revient et donc ce sera dans 15 jours. Et puis sinon à la fin du générique on retrouve un autre extrait de Miller's Crossing et on remercie Bruno à la technique.
J'ai rempli un chèque au nom de ton bookmaker Lazare. J'ai arrondi à 1 500 $. Je crois que c'est plus que tu lui dois, mais je me suis dit qu'un flambeur dans ton genre, t'auras bien l'occasion de griller le reste. Qu'est-ce qu'on dit ?
Merci.
Je t'en prie, cache ta joie. Enfin, c'est pas grave. Tu veux savoir pourquoi je te dédouane auprès de Lazare ?
Pas particulièrement.
Je veux qu'on devienne tous des amis. J'arrange ça, t'es ami avec Lazare, il est ami avec toi, t'es ami avec moi. Je veux juste que tu me prouves que t'es un ami en m'offrant Bernie Birnbaum. Tu sais que j'ai raison de vouloir le tuer. Ce Youpin est en train de m'arnaquer. Je peux pas laisser Léo lui offrir un parapluie neuf.
Alors l'idéal, c'est que je bute Bernie, je m'arrange avec Léo et tu me dédouanes avec Lazare.
Ouais, et on redevient tous des amis. Toi, moi, Léo, le Danois.
On pourrait même prendre le thé, un de ces quatre.
Allons, Eddie. L'amitié, c'est un état d'esprit. Qu'est-ce t'en dis, hein?
Faut que j'y réfléchisse.
Faut qu'il y réfléchisse. T'entends le Danois ? C'est un grand penseur, c'est pas merveilleux ?
Est-ce qu'il veut un oreiller pour être à l'aise ?
D'accord, petit. Réfléchis-y. C'est un état d'esprit. Je veux quand même t'aider. Faut que tu saches que si tu refuses de le faire, tu seras pas en état de marche très longtemps.
Cinérama.
Tu parles d'état physique ou d'état d'esprit, Johnny ?
Sur Divergence FM.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Ah non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers,
c'est le 18. Et alors, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.